BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good Evening Business, Guillaume Paul.
Allez, 18h dans quelques secondes, soyez les bienvenus dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Beaucoup de choses à vous raconter ce soir. D'abord, Xi Jinping qui est à l'Elysée en ce moment avec Emmanuel Macron. Ils ont déjà parlé commerce international tout à l'heure. Avec aussi Ursula von der Leyen, et les propos ont été assez cash apparemment. On va retrouver Thomas Asportas qui est à l'Elysée dans un instant, puis on en parlera bien sûr largement avec nos experts jusqu'à 20h. Sinon, l'État qui croit plus que jamais aux véhicules électriques, il a signé un nouveau contrat de filière avec l'ensemble de la profession automobile pour l'instant. L'objectif, c'est toujours de vendre 800 000 véhicules électriques en France en 2027. C'était seulement 300 000 l'année dernière. On verra ça, bien sûr, avec nos experts également. De tout cela, on parlera avec les experts qui arrivent, bien sûr, à 18h30 sur BFM Business. On parlera aussi d'Atos, parce qu'il y a désormais plusieurs offres sur le bureau des dirigeants. Frédéric Simotel nous dira si l'une d'entre elles peut émerger. Voilà le programme. Et puis, dans un quart d'heure, c'est la grande interview. C'est Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Il co-préside aujourd'hui le comité de suivi de la charte sociale des Jeux Olympiques. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc Emmanuel Macron et Xi Jinping qui sont en train de s'exprimer en ce moment face à la presse à l'Elysée après tout un après-midi de travail. Bonsoir Thomas, on vous retrouve sur place pour BFM Business. Est-ce qu'on sait quelle a été la teneur, on va le dire comme ça, des échanges entre les deux présidents, Thomas ?
Bonsoir Guillaume, alors les déclarations à la presse viennent de s'achever, ça a été très court, à peine 3 minutes, très succinct, vous l'aurez compris, très feutré aussi. Le président de la République a parlé d'échanges extrêmement fructueux avec son homologue chinois sur les questions géopolitiques et de climat. De son côté, Xi Jinping a salué que la France était dans une position moins dans la confrontation et le rapport de force que ne pouvaient l'être d'autres pays, sous-entendu les États-Unis. Mais pour ce qui est du reste, aucune déclaration, en tout cas publique, sur la question qui fâche, qui est celle des différents commerciaux. On comprend bien jusqu'à présent, en tout cas publiquement, qu'aucun des deux pays n'a réussi aujourd'hui à accorder ses violons sur cette question des différents commerciaux. Pour faire simple, on a deux chefs d'État qui s'accusent mutuellement et réciproquement de protectionnisme. On a d'un côté la France qui reproche à la Chine de fermer ses frontières à tout un tas d'entreprises françaises et pas que, d'ailleurs, entreprises européennes aussi. Elle accuse aussi le régime chinois de concurrence déloyale avec des subventions déguisées vis-à-vis de son industrie. Et de l'autre côté, on a la Chine qui reproche à la France, notamment depuis le début de l'année, de l'avoir banni des bonus écologiques pour ses voitures électriques. Elle reproche aussi à la France de mener en quelque sorte la fronde en Europe avec cette idée de quotas de produits européens dans les appels d'offres, et puis aussi d'être à la manœuvre, de tenir la main quelque part de la Commission européenne pour tout un tas d'enquêtes qui ont été lancées sur les fabricants de constructeurs, de voitures électriques, de panneaux solaires, d'éoliennes ou encore de dispositifs médicaux. Donc vous voyez le paysage, on le connaît, on a des relations commerciales qui ne sont vraiment pas au beau fixe entre les deux pays, et on ne peut pas dire que grand-chose ait changé aujourd'hui. Et à la fin, on a une situation qui est clairement beaucoup plus favorable à la Chine, avec un excédent commercial vis-à-vis de la France de près de 50 milliards et de 300 milliards d'euros vis-à-vis de l'Europe.
Merci beaucoup Thomas Asportas, donc qu'on va retrouver tout au long de la soirée à l'Elysée pour BFM Business. Bah, écoutez d'ailleurs Emmanuel Macron qui, en 20 secondes tout à l'heure, lors d'une première prise de parole, résumé très bien avec ses mots à lui le numéro d'équilibriste auquel il est confronté avec le régime chinois finalement.
Nous sommes à un tournant de notre histoire qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles, qu'il s'agisse des échanges économiques avec une logique de découplage qui serait néfaste, ou de notre responsabilité à assurer des règles équitables pour tous.
Là, Emmanuel Macron, donc en début d'après-midi à l'Elysée, avec Xi Jinping, visite du président chinois sur laquelle on viendra bien sûr largement jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. Alors je vous le disais, hasard du calendrier, c'est le jour où Xi Jinping débarque à Paris que l'État a signé ce matin à Bercy le nouveau contrat de filière avec l'ensemble du secteur auto pour 4 ans. L'objectif, c'est qu'en 2027, c'est confirmé, on vende bien 800 000 véhicules électriques en France. Et Bruno Le Maire l'a dit, nos amis chinois sont les bienvenus, mais nous devons, nous aussi, Français, Européens, accélérer. Écoutez.
La préférence est donnée à des véhicules qui ont l'empreinte carbone la plus faible. Le choix n'a pas été fait en fonction de l'origine du pays du véhicule électrique. Et l'industrie automobile chinoise est la bienvenue en France. Si demain BYD souhaite ouvrir un site industriel de production en France, il est le bienvenu. Nous avons d'autres constructeurs étrangers qui ont fait ce choix dans les années passées, je pense à Toyota, et nous n'avons eu qu'à nous en féliciter.
Voilà, la France qui continue de parier plus que jamais sur l'électrique. D'ailleurs, on en parlera demain avec Roland Lescure. Vous avez peut-être vu à l'image qui sera l'invité de BFM Business, de Laure Closier, à 8h15 sur BFM Business. Roland Lescure, donc le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie. Dans l'actualité des entreprises, ça bouge chez Vinci, où on prépare la succession du patron Xavier Huillard. Vinci vient nommer au poste de directeur général opérationnel du groupe Pierre Enjolras, qui dirigeait jusqu'à présent la branche construction de Vinci. C'est un poste qui n'existait pas jusqu'à présent. Le mandat de Xavier Huillard expire le 17 avril 2025. Donc, dans un petit peu moins d'un an, 18h05, le dossier Atos, encore ce soir, parce que ça s'accélère toujours et encore. Bonsoir Frédéric Simotel. Donc, ce matin, on apprenait que 4 offres avaient été déposées pour la reprise du groupe, mais apparemment, il y en a déjà une qui a été mise de côté, c'est
exactement, ça? Exactement, c'est tout simplement celle de Bain Capital, hein, qui est arrivée un peu tard. Nous en avions parlé en fin de semaine dernière, justement. Alors, il en reste trois. Equity Investment, donc c'est un fonds contrôlé par Daniel Kretinsky, hein, qui n'avait jamais caché son envie de reprendre une partie d'Atos. OnePoint, la société contrôlée par David Layani, qui est l'un des actionnaires, principal actionnaire du groupe, et associé au fonds Walter Butler. Et puis, il y a un groupe de porteurs d'obligations, les créanciers, là, qui proposent un plan de reprise de l'ensemble du groupe, et cette offre s'effectuerait en association avec un industriel. Donc je l'ai dit, Bain Capital est mis de côté. On pourrait peut-être le revoir à un moment, parce qu'il y aura des alliances si c'est démantelé. Mais
vous disiez que c'était une offre à prendre en considération vendredi dernier quand même.
Il y a quand même quelque chose autour de tout ça qui a vraiment un peu débloqué la situation. C'est déjà que l'État a mis la main, enfin a préempté un peu toute la partie des actifs souverains. Donc là, ça a débloqué un peu tout le reste, parce que ça ouvre des perspectives pour les autres. Visiblement, on ne s'avance pas vers un démantèlement par bout d'Atos, qui est plutôt une bonne chose, hein. On parle beaucoup du One Atos, c'est-à-dire Atos vendu en un seul morceau, sorti évidemment de ses actifs souverains et de sans doute une filiale qui s'appelle World Grid, mais voilà ce qui compte pour peu dans le gros du deal. Et puis, alors selon les experts là autour du dossier, ce One Atos aurait une valeur bien supérieure à si on commençait à démonter. Alors maintenant, la bataille s'engage où? La bataille s'engage autour des 4,8 milliards de dettes.
Eh oui.
Parce que là, il y a ceux qui veulent complètement l'effacer ou pratiquement l'effacer, comme Daniel Kretinsky. Il y a ceux qui veulent la reprendre, la transformer en capital. Donc il y a tout un ensemble d'enjeux là qui va se jouer. Celui qui va l'emporter, c'est celui qui va jouer à la fois le volet financier et le volet métier, le volet industriel, puisque on est quand même dans des métiers d'avenir. Donc on va voir tout ça. Et surtout, il y a une chose. Moi, je trouve qu'il y a une chose qui manque un peu dans toutes ces négociations. C'est le futur. En ce sens que aujourd'hui, on a quand même Atos qui ne signe plus tellement de contrats, à part certains sur les supercalculateurs, ça masque un peu le reste, et donc des pertes de contrats. Et la deuxième, c'est que le marché globalement des services IT étant la croissance se ralentit, hein. On est sorti de l'euphorie du Covid, et donc le marché est un peu moins bon, et là il va forcément y avoir des restructurations derrière sur un groupe de 95 000 personnes, et là c'est un coût dont il faut tenir compte, et peut-être que ça, les repreneurs doivent y faire beaucoup plus attention, et pour ça Daniel Kretinsky est sans doute le plus lucide.
Bon, les sont sur la table et Atos veut pouvoir proposer à ses créanciers une solution le 31 mai. Ça arrive vite, hein, c'est dans 3 semaines le 31 mai.
Ça arrive très vite.
Plus, ouais. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouvez Aude Kersulec depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. Bonsoir Aude, comment ça s'est passé ce début de semaine sur le CAC 40?
Eh ben, on a commencé avec une petite hausse, plus 0,5% à 7 996 points. On a arrêté de peu les 8 000 points. Alors tout de même, c'était un petit lundi parce que d'abord, beaucoup de places financières étaient fermées. Alors du côté de l'Asie, mais aussi Londres, jour férié. Et du coup, peu de volume hein, aujourd'hui à Paris. À peine les 2 milliards d'euros d'actions échangées sur le CAC 40. Mais on repart à la hausse. Alors il y a eu des indicateurs positifs côté macroéconomique ce matin en Europe. L'indice des prix prix à la production qui a même baissé hein, par rapport au mois précédent. Et également les PMI service qui est un petit peu meilleur qu'attendu. Et puis surtout le rapport américain sur l'emploi vendredi qui a été moins bon qu'espéré et qui nous a remis dans une dynamique de baisse de taux prochaine. Alors maintenant ce qu'on espère c'est plutôt après l'été, hein, septembre ou novembre. Mais les investisseurs sont de nouveau optimistes et donc ça repart de l'avant ce début de semaine également d'ailleurs sur les indices américains et sur le CAC 40. C'était Téléperformance qui menait la danse avec quasiment 5% de hausse. En revanche, la plus forte baisse du marché parisien, vous venez d'en parler, c'est Atos avec toutes ces nouvelles, toutes ces propositions sur la table, choix qui va être fait, qui va être en tout cas très dilutif pour les actionnaires actuels et donc moins 4,4% pour la valeur qui reste tout de même au-dessus des 2 euros. Voilà donc le CAC 40 qui montait de 0,5% à 7996 points.
Merci beaucoup Edgar Sulek. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à la mi-séance. Le Dow Jones quasiment stable, 38 707 points. L'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,7%, 16 277, 18h10. Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, est l'invité d'Edwige Chevrillon dans un instant. C'est la grande interview sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Bernard Thibault, le retour. Il est aujourd'hui co-président du comité de suivi de la charte sociale qui a été signée. Je crois que c'est une grande première pour les Jeux Olympiques 2024. À quoi ça sert? Est-ce que le gouvernement a acheté une paix sociale? Bonsoir Bernard Thibault.
Bonsoir.
On va quand même rappeler que pendant 14 ans, vous avez été à la tête de la CGT, que vous avez quitté maintenant, ça fait une petite dizaine d'années. Vous avez été longtemps à la SNCF. Si je dis ça, c'est que ce n'est pas gratuit, parce qu'il y a eu un accord signé à la SNCF et certains ont dit, ça y est, on est en train d'acheter la paix sociale. Juste d'abord une question, tiens, est-ce qu'il fallait inviter Xi Jinping à Paris? Est-ce que ça vous choque?
Non, que les chefs d'État se rencontrent, discutent.
Même les Chinois.
Oui, bien sûr, même les Chinois. Bon, si on faisait la liste des pays dont on considérerait qu'ils sont peu fréquentables, ça voudrait dire que le président de la République ne rencontre pas un grand monde. Non, la seule réflexion que je vous suggère pour aujourd'hui, c'est de retenir que la Chine fait partie des pays, malheureusement, où la liberté d'association des travailleurs en Chine n'est pas totalement respectueuse du droit international du travail, puisque seul le syndicat officiel a le droit de citer en Chine, ce qui naturellement corsette en quelque sorte la libre expression des travailleurs sur leurs conditions de travail.
Alors la question, je disais, est-ce que le gouvernement a acheté la paix sociale à moins de 100 jours des Jeux Olympiques? On regarde du côté des cheminots, les éboueurs, les fonctionnaires, la SNCF, avec cet accord qui fait grincer beaucoup de dents, fait quelque part efface la réforme des retraites qui a été faite. Est-ce que pour vous, le gouvernement, ça y est, il sait ce qu'il veut, il veut des JO qui se passent bien?
Non, moi je dirais plutôt l'inverse. J'ai l'impression que les déclarations ou les mesures gouvernementales représentent beaucoup d'efforts pour dégrader encore un peu plus la situation sociale dans le pays. J'en prends pour preuve, par exemple, l'annonce par le Premier ministre de choisir le 1er juillet pour présenter de nouvelles dispositions plus restrictives sur l'indemnisation du chômage à 20 jours des Jeux Olympiques. Ouais. Une mesure contestée par tous les syndicats. Mmh. Je remarque aussi l'annonce faite par le ministre de la Fonction publique qui attend beaucoup de la mobilisation des fonctionnaires pour les Jeux Olympiques, et on peut comprendre pourquoi, tout en leur promettant une réforme de leur rémunération au mérite à la rentrée, voire la perspective d'être licencié si on estime qu'il ne travaille pas convenablement. Ce sera pour la rentrée. Là aussi, ça permet de créer un climat tout à fait particulier. Et puis, naturellement, le ministre de l'économie qui se permet de contester le bien fondé de l'accord passé à la SNCF.
Ah oui, mais c'est un accord qui revient sur la réforme des retraites, Bernard Thibault.
Mais il y a plein d'entreprises où vous avez des dispositions qui permettent des cessations anticipées d'activité. C'est d'ailleurs très contradictoire de dire tantôt, et ce gouvernement l'a dit maintes fois aux syndicats, vous n'êtes pas raisonnable lorsque vous n'acceptez pas un certain nombre d'accords, et lorsqu'il y a un accord unanime avec tous les syndicats de l'entreprise, de le contester parce qu'il serait trop favorable aux salariés. On ne peut pas défendre uniquement des accords sociaux lorsqu'ils sont défavorables aux travailleurs.
Et puis pour vous, il était forcément au courant, non? J'imagine que vous avez quand même
évidemment,
vous entrez encore la
CGT. Oui. Alors il y a sans doute là aussi un jeu de billard à plusieurs bandes, si j'ose dire, puisque plusieurs observateurs l'ont remarqué, le mandat de M. Farandou arrive à échéance, et peut-être que M. le maire a un poulain à placer dans cette période.
Oui. Et vous avez passé combien de temps à la SNCF, vous, Bernard Thibault ?
Ah, un certain nombre, puisque...
Votre retraite, entré, vous la devez, la SNCF.
Je suis redevable de ma retraite, si j'ose dire, puisque j'ai aussi cotisé en conséquence.
Bien sûr.
Mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle à la SNCF.
Donc, vraiment, le gouvernement met, au contraire, de l'huile sur le feu.
Oui,
avant les JO.
Je crois qu'il fait beaucoup d'efforts
pour... Il joue au pompier pyromane, quoi, en fait, c'est ça que vous dites.
Pour tendre un peu plus le climat social, il pourrait économiser bien de ces mesures ou de ces déclarations, alors qu'il y a bien des problèmes à résoudre encore dans la préparation des Jeux. C'est le rôle du comité de la charte sociale que de s'occuper de ces questions-là.
On y arrive, oui, justement. Juste un dernier point. Comment lutter contre ce JO-bashing, là, quand même ? Parce que c'est l'esprit français que vous comprenez ? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment...
Non, mais que les JO.
On est en plein dans le JO bashing.
Non, mais que les JO, comme tout grand événement, et c'est un grand événement par définition, assez exceptionnel, on l'a que tous les 100 ans, soit l'objet de critiques, de remarques, dans une démocratie, c'est plutôt sain. Effectivement, lorsqu'on organise des Jeux Olympiques en Chine, en Russie, ou dans d'autres pays beaucoup moins démocratiques, je dirais, la critique n'a pas le droit de citer. C'est normal qu'en France, il y ait place à la critique. Mais après, il faut aussi relativiser tous les problèmes, ce qui nous préoccupe en tant que comité de la charte sociale, c'est les conditions sociales dans lesquelles se préparent et vont s'organiser les Jeux Olympiques.
Et en plus, vous venez de faire un premier bilan, et je rappelle, vous avez publié là dans les coulisses des Jeux Olympiques, parce que maintenant, ça fait 7 ans, 8 ans que vous travaillez pour cette charte sociale. Alors, quel est le rôle exact j'aime bien le dire, dans les coulisses des JO, aux éditions de l'atelier, c'est important de le signaler, et pour ceux qui nous regardent à la télévision, on peut voir votre livre. Quel est le rôle des partenaires sociaux, notamment dans l'établissement de cette charte sociale qui est une grande première quand même dans les Jeux Olympiques ?
Ils sont à l'initiative. Ce sont les syndicats français qui sont à l'initiative d'une charte sociale pour l'organisation des Jeux Olympiques, qui, comme vous le venez de l'évoquer, est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Ouais. Jamais un pays organisateur n'avait pris d'engagement sur le plan social dans la préparation, le déroulement des Jeux Olympiques. Mmh. Et ce sont les syndicats qui ont rédigé 16 objectifs. Nous les avons ensuite soumis aux organisations patronales qui, une fois que Paris a été retenu en septembre 2017, a rejoint le processus avec des engagements sur l'emploi, le respect des règles du travail, la lutte contre le travail informel, la sécurité au travail. Et de ce point de vue-là,
quel est le rôle exact de cette charte sociale ? Pourquoi faire, quoi, grosso modo ?
Pour se donner des objectifs sociaux. On ne peut pas organiser des Jeux Olympiques comme on organisait une Coupe du Monde de foot au Qatar, comme on organise des Jeux Olympiques dans les pays où il n'y a quasiment pas de droits sociaux ou très peu de droits sociaux. Il nous fallait, et nous avons aussi la prétention, de marquer un peu le parcours et l'histoire de ces Jeux Olympiques. Tous les grands événements sportifs se doivent aujourd'hui de prendre en compte des objectifs sociaux, voire environnementaux, parce que ce sont des préoccupations d'aujourd'hui dans la société, et il serait aberrant d'organiser ce genre de grand événement, de grande compétition, en faisant abstraction de ces dimensions-là. Les conditions dans lesquelles travaillent des dizaines de milliers de salariés pour que des sportifs soient réunis en compétition, c'est une donnée à prendre en compte dès le départ.
Oui, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'elles sont prises en compte ? Parce que ça, c'était il y a 7 ans, la photo de famille, on vous voit tous. Alors, vous êtes là, mais à côté de vous, il y a Geoffroy Roux de Bézieux qui était président du MEDEF, il y a Dominique Carlac, il y a Laurent Berger qui était encore là, ils sont tous là, François Omeril, Cyril Chabanier, vous êtes tous là. Aujourd'hui, il reste quoi ? Parce que
on fera le bilan le moment venu. On a déjà, notamment sur les chantiers, fait la démonstration que notre contribution, parce qu'on a été entendu notamment par la société de livraison des ouvrages olympiques, nous avons fait la démonstration que notre présence était utile pour avoir une plus grande sécurité sur les chantiers.
Est-ce que vous pouvez nous assurer ça ? Par exemple, là, on voit bien, la piscine a été livrée, les grands chantiers, là où vont habiter les athlètes ont été finalisés, livrés eux aussi. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas eu un travail illégal sur ces chantiers ?
Il y a eu du travail illégal. Oui, on a même eu la présence de travailleurs dits sans papier, de travailleurs immigrés, dont certains étaient d'ailleurs surexploités par des filières internationales. On a mis le doigt dessus, on les a dénoncés. Il y a des procédures en justice qui sont ouvertes. Il y a à peu près 150 travailleurs immigrés qui ont été régularisés sur ces chantiers. Des gens qui travaillaient dans le bâtiment depuis des années. Et le fait que nous étions présents sur ces chantiers, avec des visites, des permanences, nous ont permis de détecter ces situations et surtout d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour obtenir leur régularisation. Ce sont maintenant des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans les règles du droit social français.
Je recevais, alors je dis ça pas du tout pour eux, parce qu'en plus c'est une grande entreprise très visible, Sodexo Live, qui va livrer 45 000 déjeuners, enfin repas pour les athlètes. il y a des volontaires, etc. Il y a des tas de gens qui viennent. Dans la sécurité aussi, il y aura des volontaires, mais il y aura forcément des gens qui seront des sans-papiers ou des travailleurs illégaux.
J'espère que non. Et d'ailleurs, j'ai lu avec attention le fait que les pouvoirs publics annonçaient un dispositif tout à fait particulier de l'administration pour surveiller la manière dont les hôtels, les cafés, restaurants traiter les touristes du point de vue de la qualité, des prestations. J'attends le même dispositif sur la question sociale. J'espère que nous aurons l'appui des pouvoirs publics pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail illégal à l'occasion des Jeux Olympiques. Il y a des filières en sous-effectif, je pense à la propreté, la sécurité privée. Il est clair que nous n'aurons pas les effectifs attendus. Ouais. En matière de sécurité privée.
Ouais. C'est le gros problème, hein. C'est là où vraiment le bas blesse.
Nous l'avons tous annoncé dès le départ, les obligations syndicales.
Il manque combien ?
Il manque plusieurs milliers. Il manque déjà 20 000.
Qu'est-ce qui va se passer ? Il manque 20 000, pardon.
Je ne sais pas. On a loupé le coche d'une revalorisation de cette filière. La filière de la sécurité privée est plombée par la précarité sociale. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans l'incapacité de dire s'il y aura les bras nécessaires, attendus, pour la bonne organisation des Jeux Olympiques.
Mais ça veut dire quoi, Bernard Thibault ? Ça relève pas du ministère du Sport, ça relève peut-être du ministère du Travail. Vous avez des rencontres avec le ministre du Travail,
Il n'y a pas eu de volonté de revaloriser cette filière. Encore une fois, c'est une des filières où la précarité est omniprésente. 40% des effectifs de la sécurité privée changent chaque année. On fait de la sécurité privée de passage, momentanément. Et certains, d'ailleurs, dans la filière, disent que c'est un petit job en plus du travail habituel. Vous ne pouvez pas attendre d'une telle conception de la mission de sécurité privée la même prestation que si on la considère vraiment comme un métier à part entière, ce qui est d'autant plus nécessaire qu'il y a aujourd'hui besoin de maîtriser des technologies nouvelles en matière de sécurité. Je ne vais pas développer, ce serait sans doute trop long. Et au lieu de revaloriser cette filière, c'est le moins-disant social qui emporte les marchés. Et bien là, alors que les besoins vont être considérables pour les Jeux Olympiques, mais aussi toutes les initiatives autour des Jeux Olympiques, les municipalités, des entreprises vont organiser des initiatives, tout le monde va avoir besoin d'encadrer et de sécuriser ces rendez-vous. Chacun le comprend dans le contexte international que nous connaissons. Et il n'y aura donc pas les effectifs correspondant à l'ensemble des besoins qui vont s'exprimer dans cette période.
Mais si vous tirez la sonne d'alarme ici, Bernard Thibault, j'imagine que vous la tirez aussi ailleurs.
Ça fait des mois qu'on a fait le constat. On nous a dit... Les contrats sont signés avec les entreprises. Le problème, c'est que les contrats sont signés avec des entreprises
qui n'ont pas les effectifs disponibles.
Ouais. Il va falloir donc des appels à la cantonade et souhaiter, croiser les doigts, je ne sais, pour que le personnel soit présent. Et le personnel qui exerce en matière de sécurité privée ira voir des prestataires qui offriront le même tarif. On a la plupart du temps des contrats à durée déterminée. On peut comprendre que les gens aillent vers le mieux offrant.
Malgré tout, par rapport à cette charte sociale donc, que vous avez initiée, à vos côtés du reste de Geoffroy Roux de Bézieux, Bernard Thimault et Dominique Carnac, est-ce que vous estimez que les objectifs sont à peu près remplis ? Vous ferez le bilan après, on est bien d'accord.
Oui, on fera le bilan. On va naturellement consacrer l'après-Jeux Olympiques, avec l'ensemble des syndicats qui sont partie prenante de cette démarche, avec aussi les organisations patronales, à faire notre propre bilan, notre propre expérience. Ça n'a jamais été fait.
Oui, mais alors pourquoi vous... juste un point pour faire le lien avec le début de cet entretien. Pourquoi vous avez signé ça avec les entreprises privées, il y a toutes les entreprises privées, mais pourquoi pas avec les fonctionnaires, pourquoi pas avec
l'État n'est
les
pas
cheminots,
partie prenante. C'est d'ailleurs, ce sera un sujet d'analyse.
Ah oui, pourquoi l'État n'est pas partie, c'est le plus grand employeur de France.
L'État effectivement n'est pas partie prenante. Ça n'explique pas tout, mais enfin peut-être en partie. Pourquoi nous avons tant de mal à appréhender les conditions de travail des fonctionnaires, pour lesquels on attend beaucoup en termes de présence et de suggestions, mais à qui on veut peu reconnaître de compensation et de mesures d'anticipation. Il y a encore beaucoup de sujets à résoudre. Il y a encore peu de services qui connaissent vraiment les emplois du temps, le nombre de personnel nécessaire et surtout les moyens sociaux que l'on met en contrepartie pour leur permettre d'être présents.
Parce que là, il y a un appel à la grève le 21 mai en Ile-de-France, justement, pour discuter de cette prime qui sera donnée.
Alors après, il y a des discussions entreprise par entreprise, à la RATP, dans l'énergie, à la SNCF.
Vous approuvez ce chantage, Bernard Thibault ?
Pas un chantage, attendez.
C'est une forme de chantage.
Non, on ne peut pas appeler
un grève, sinon vous ne me donnez pas ce que je vous demande.
Non, mais... Bon. À toute suggestion supplémentaire par rapport à un travail normal doit correspondre une reconnaissance particulière. Ou alors, il faut demander tout simplement un travail gratuit parce qu'il y a les Jeux Olympiques. On est en France, il est normal.
Ça ne vous choque pas, là, tous ceux qui demandent, à l'occasion.
Dès lors qu'il y a des suggestions particulières, vous demandez à des gens d'être présents, voire vous leur imposez d'être présents. Chacun peut avoir aussi des charges familiales, peut être marié, avoir des enfants. Ça veut dire que peut-être cette année, vous allez faire l'impasse sur des vacances en famille. Ouais. Ça peut nécessiter pour le moins...
la fierté de ces JO qui n'arrivent qu'une fois tous les 100 ans en France.
Bien sûr, mais...
Je reprends l'expression du président Emmanuel Macron.
La fierté des JO, tout le monde est prêt à l'assumer. Mais la fierté des JO, ça ne vous fait pas manger le dimanche devant le boucher ou devant l'épicier pour remplir votre filet.
Alors, il y a un point qui est important quand même, puisqu'on parlait des entreprises. Vous avez fait un bilan il y a quelques jours là, au Conseil économique et social et environnemental. Il y a 90% des marchés remportés par les PME, par les Français, dont 75% par les PME et les TPE. Ok, mais moi, si je prends la mascotte, elle a été fabriquée par une entreprise française, mais enfin, elle a été fabriquée à l'étranger, pour ne pas la citer.
Oui,
donc, ça veut dire quoi ?
Ce sera aussi un des sujets du bilan, et moi, je l'avais soulevé au conseil d'administration. Au-delà de ce qui est plutôt positif, de favoriser les entreprises françaises dans les marchés liés aux Jeux Olympiques, et parmi les entreprises françaises, de faire une part aux PME, puisque en général, on a le sentiment que ces grands événements sont réservés aux majors, ceux qui ont tendance à écraser les marchés. Il y avait des clauses dans les marchés, à notre demande, à la demande aussi des employeurs, notamment des représentants des petites entreprises, à ce qu'une part des chiffres d'affaires soit réservée aux petites entreprises. Ça, c'est une chose et c'est plutôt positif. Autre chose est de penser que parce qu'on signe, des contrats avec des entreprises françaises, que la production est elle-même française. Et là, je crains qu'au bilan, mais il faudra attendre l'après-JO pour là aussi analyser ce qu'il aura été après coup, je crains qu'on n'ait pas fait ce que l'on aurait pu faire, à savoir accroître le niveau de production française des produits nécessaires à l'organisation des Jeux. Je pense qu'on a manqué d'anticipation, mais ça correspond aussi, je dirais, à une vision politique où c'est le marché, en général, qui va tout régler. En matière industrielle, si vous ne donnez pas une impulsion particulière, si vous n'encouragez pas des investissements, le marché vous écrasera au nom de la concurrence. Et donc là, je pense qu'on aurait pu mieux faire sur le Made in France s'agissant des produits qui seront nécessaires à l'organisation des Jeux.
Est-ce que malgré tout, en conclusion, Bernard Thibault, vous direz que ces Jeux olympiques français, avec cette charte sociale, encore une fois la première fois, est-ce que vous diriez qu'ils vont être très différents des autres Jeux olympiques qu'on a pu voir à Londres, qu'on a pu voir à Athènes ou dans d'autres villes ?
Oui, je pense que du point de vue social, mais déjà parce qu'on est en France.
Déjà,
je dirais que le standard de référence est bien différent. D'aucuns nous le reprochent, mais ça correspond à notre histoire sociale et politique. Ça n'est pas un hasard. Si nous avons de la protection sociale, un code du travail, des libertés syndicales, on évoquait la Chine tout à l'heure, on est dans un contexte très différent. Pour autant, cette charte permet de mettre en exergue le fait que l'organisation d'un événement d'ampleur mondiale comme les JO ne peuvent aboutir à mettre entre parenthèses les droits sociaux. C'était une velléité de certains responsables politiques. On entend dire, d'ailleurs,
c'est l'envers de la Coupe du Monde de football.
C'est le contre-exemple d'une Coupe du Monde de football au Qatar, par exemple.
Oui, on a bien compris. Merci beaucoup, Bernard Thibault. Donc,
merci
dans les
vous.
Coulisses des JO, c'est aux éditions de l'Atelier. Et Bernard Thibault qui pense que non, le gouvernement n'achète pas la paix sociale. Au contraire, il est en train de la teaser avec ce calendrier qui est peut-être un peu dangereux à la veille des Jeux Olympiques. Merci,
merci
beaucoup,
à vous.
Bernard Thibault. Tout de suite, Guillaume Paul nous apporte toute l'info.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
BFM Business, l'info éco.
Il est 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité, Xi Jinping est donc à l'Elysée en ce moment. Les deux chefs d'État ont déjà échangé ces dernières heures à Paris en présence d'Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron a plaidé comme prévu pour des règles commerciales équitable, je cite, l'Europe n'hésitera pas à prendre des décisions fermes, a surenchéri la présidente de la Commission européenne. On va reparler de tout ça, bien sûr, dans un instant. L'État français, lui, réaffirme le choix résolu, je cite toujours, de la voiture électrique en signant un nouveau contrat de filière sur 4 ans avec la profession. L'État remet 1,5 milliard d'euros en promettant de préserver notamment le bonus écologique ou encore le leasing social. L'objectif du gouvernement n'a pas changé. Vendre 800 000 voitures électriques en France en 2027, c'était environ 300 000 l'année dernière. Et puis Atos, qui se donne jusqu'au 31 mai pour présenter un vrai plan de sauvetage à ses créanciers. Le groupe a reçu 4 offres de reprise, mais n'en a retenu que 3. Celle d'un groupe d'actionnaires de l'entreprise, celle de Daniel Kretinsky et celle de son premier actionnaire David Layani. En revanche, celle du fonds américain Bain Capital a été écartée. De tout cela, on reparle dans un instant avec Audrey Tcherkov et tous nos experts qui arrivent. La première partie jusqu'à 19h. À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h32 sur BFM Business. C'est parti pour les experts du soir avec une table qui est vide. Non, qui se remplit petit à petit. Qui sera quand même, voilà. Frédéric Simotel va arriver dans un instant. Emmanuel Le Chypre est coincé dans l'ascenseur comme à son habitude. Bonsoir Audrey, pardon, bien tout ça, je vais vous
dire. Bonsoir, bonsoir Audrey Tcherkov. Bonsoir à tous.
Avec nous, Edwige Chevrillon qui reste avec nous. Bonsoir Edwige, on a beaucoup de choses à dire. D'abord, un mot de. Ah, Bernard, dites donc, il n'a rien perdu de sa verve quand même.
Ah Bernard Thibault, il nous manque, j'ai envie de dire, il nous manque.
Bah, un petit peu quand même, finalement.
Ça, il n'est pas parti.
Il a quitté la société quand même. C'était des grands leaders. Enfin, il faut laisser le temps à Sophie Binet de s'installer. Mais enfin, c'est vrai qu'il a toute sa verve, il a cette voix forte, il est clair dans sa tête. Et moi, je trouve ce qui est intéressant qu'il a dit, et il l'a dit franchement, il a dit non, on dit beaucoup que le gouvernement a acheté la paix sociale avec cet accord sur la SNCF. Oui. Je ne sais pas s'il l'avait écouté, il dit non, mais au contraire, le gouvernement est en train d'attiser la colère sociale. Enfin, vraiment, ils sont complètement fous, que ça soit faire la réforme de l'assurance chômage au 1er juillet, de menacer les fonctionnaires de les licencier juste avant. Ils me disent, je ne comprends pas qu'ils puissent dire des choses pareilles là, alors qu'il y a des Jeux Olympiques. Et puis l'autre point que moi j'ai trouvé très important, c'est la première fois que j'entendais ça aussi clairement, le problème de sécurité. Sécurité, d'ailleurs, on n'y est pas du tout. On a signé la charte sociale avec les entreprises de sécurité, mais derrière, ça ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a un manque, c'est des milliers de personnes qui manquent pour la sécurité. Et alors, je lui dis, pourquoi, que faire, et comment vous l'expliquez? Il dit, mais c'est simplement, vous avez 40% de turnover dans ces entreprises, où quand même les minima sociaux sont très très bas. On n'a pas voulu du tout revaloriser ce métier. Et les conséquences, elles sont là. C'est-à-dire que là, il manque des milliers pour les Jeux Olympiques, alors qu'on a moins de 100 jours.
Et pourtant, Bernard Thibault, c'était un des premiers, rappelez-vous, en novembre, décembre dernier, à défendre la position française en disant, mais si on s'organise en amont, si on anticipe, il n'y aura aucun mouvement social. Alors lui, en effet, c'est vrai qu'il se bat pour revaloriser tout le secteur, notamment la sécurité. Oui, exactement. Mais c'est sûr que, on est en sous-effectif, et par ailleurs, le choix politique du gouvernement pour les Jeux Olympiques, ça a été de passer par des formations très raccourcies dédiées aux grands événements contre les avis des acteurs majoritaires du secteur et notamment des syndicats.
Vous faites allusion à quoi, pardon ?
Sur la formation des effectifs liés justement au sujet sécuritaire.
Oui, peut-être, mais il faut d'abord que le problème, c'est un problème d'effectif au sein même des entreprises de sécurité.
Oui, absolument, et en plus de ça, avec des formations qui sont un peu balbutiantes, donc ça n'aide pas.
Il y a aussi le sujet, effectivement, de la qualité du travail, de la sécurité sur le travail. Il dit, en fait, ils ont créé cette charte pour ne pas avoir... à l'occasion des Jeux Olympiques, ce qu'on a eu au Qatar. Il a répété deux fois le Qatar. Et il y a des procédures. On a dénombré quelques dizaines de cas de personnes sans papiers sur les chantiers.
150,
effectivement, 150. Il dit qu'il y a des procédures qui ont été lancées, finalement. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vraiment.
Donc c'est un point positif. Après, il faut faire le bilan. Après, c'est comme... il dit, ils ont fait un premier bilan, là. C'est pour ça que j'ai invité Bernard Thibault. 90% des marchés ont été remportés par des entreprises françaises.
Oui.
Il dit, sur le papier, c'est bien, tout le monde applaudit. Mais quand vous regardez... l'histoire de la mascotte, entreprise française, mais qui n'est pas fabriquée en...
Ça va nous coller au basque, comme on dit.
Là, de ce point de vue-là, la prochaine fois, il faudra qu'on aille un peu plus loin, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors, l'autre point positif, quand même, parce qu'il y en a un, c'est qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire des Jeux Olympiques, de reconnaissance officielle des syndicats du pays organisateur. La France, c'est le premier pays à mettre ça en place. C'est quand même une avancée sociale majeure, Emmanuel Le Chypre. Qu'en dites-vous ?
Je dis que ça fait partie du folklore français. C'est remarquable.
Non, mais c'est-à-dire on est toujours dans le symbole.
On voit bien que c'est vraiment.
Si on peut essayer de faire mieux qu'au Qatar, excusez-moi, moi je me suis d'accord.
Mais à quel point de vue ?
On fait mieux que le Qatar.
J'espère bien, je suis content.
Regardez vraiment les vrais chiffres du Qatar, c'est-à-dire que ces chiffres bidons dont on nous a abreuvé sur le nombre de morts sur les chantiers, qui en fait ne correspondent pas du tout au vrai nombre de morts sur les chantiers, qui correspondent au nombre de gens qui travaillent morts au Qatar en général, etc. Il y a une intox. Là-dessus, je dis pas que les conditions de travail étaient exceptionnelles, etc.
Je pense que c'est grave.
Mais je veux dire, ça a sans doute été exagéré. exagérer. Et après, demandez à tous les gens qui ont été au Qatar et à tous les journalistes qui ont couvert la Coupe du Monde au Qatar, ils vous diront que c'était un modèle de très bonne organisation.
Oui, mais avec ça, c'est autre chose.
Mais là, l'organisation, c'est autre chose.
Les deux, et la sécurité était aussi.
Emmanuel, pardon, mais vraiment, habité là-bas longtemps.
Je suis pas en train de vous dire que les Qataris sont formidables. Non, mais attendez, il s'agit pas de
comparer. Non, mais sur les avancées sociales.
Et il s'agit pas de vous dire que les Qataris
sont formidables.
Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que nous, on a mis en place des choses qui paraissent très bien sur le papier. Et comme en fait, en amont, il y a rien qui suit.
Entreprises jouent le jeu quand même.
Bah, les entreprises.
Après la question de sécurité.
Non, mais les entreprises, elles jouent le jeu sur quoi? C'est-à-dire qu'elles sont en sous-effectif sur plein de sujets.
Non, à part la sécurité.
Et bah oui, mais la sécurité, c'est quand même un des aspects majeurs. C'est... Alors effectivement, dans tous les pays qui ont organisé les Jeux Olympiques, il y a toujours eu des négociations un petit peu pour obtenir des choses de la part des syndicats, etc. C'est vrai qu'à Londres, à Athènes, au Brésil, il y a eu des revendications qui ont été...
Ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins, le paritarisme, il n'est pas mort là.
Il y a eu des revendications qui ont été satisfaites. Ouais. Mais là où la France se distingue encore, c'est vrai que jusqu'à maintenant, à la faveur des Jeux Olympiques, jamais une catégorie sociale n'avait obtenu d'avantages durables. Et pérennes. Alors que là, finalement, la SNCF, ce sont des avantages pérennes, sachant que effectivement, alors pour le coup, il a raison, Bernard Thibault. C'est-à-dire la meilleure façon de garantir finalement de risquer qu'il y ait des mouvements sociaux, c'est de dire que cet accord n'est pas bien, etc.
Oui.
Et donc voilà. Et le patron de la SNCF, il peut arriver très tranquille en disant, écoutez.
De toute façon, on a beau dire ça, c'est fait.
Moi, je vous promets la tranquillité pendant.
Bruno Le Maire a dit qu'il n'était pas au courant, alors que d'après Bernard
Thibault,
il est parti à la SNCF, il était au courant.
On en a débattu la semaine dernière.
Affaire à suivre. Bien.
Allez, la grande actu du jour, on y vient évidemment, c'est l'arrivée à Paris et en grande pompe du président chinois Xi Jinping, qui a été reçu dès la fin de la matinée par Emmanuel Macron, qui s'est déjà entretenu avec lui et avec Ursula von der Leyen.
Et on a parlé question commerciale, c'est le sujet qui fâche, et apparemment les choses ont été dites de manière assez franche. Écoutez, Ursula von der Leyen, c'est peut-être celle qui a été la plus franche aujourd'hui sur le sujet. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Nous défendrons nos entreprises, nos économies, nous n'hésiterons jamais à le faire si c'est nécessaire. La Chine subventionne des produits, les voitures électriques, l'acier inonde les marchés européens. En même temps, la Chine soutient sa production industrielle, sa demande intérieure ne suit pas. Le monde ne peut pas absorber les surcapacités chinoises. And this combined with a domestic demand that is not increasing. L'Europe n'hésitera pas à prendre des décisions fermes pour protéger son économie et sa sécurité.
Que le contexte est tendu, puisqu'on a une Europe qui déclare que la Chine est un partenaire commercial déloyal à juste titre, et en même temps, la France, elle a quand même bien besoin de rééquilibrer ses échanges commerciaux. Je vous rappelle quand même que le déficit commercial est de 40 milliards d'euros pour une balance commerciale au total déficitaire de 100 milliards d'euros.
Moi, j'ai juste un petit point avant qu'on embraye sur les sujets de fond. J'étais quand même un peu surprise que ce soit le Premier ministre Gabriel Attal qui accueille Xi Jinping hier sur le tarmac d'Orly. Là, il est arrivé, il y avait une petite délégation et tout. C'est quand même le président chinois. Je ne comprends absolument pas pourquoi c'est le président de la République ne l'a pas accueilli. Et je trouve que soit on reçoit quelqu'un comme il se doit, soit on ne le reçoit pas. Mais si c'est uniquement pour lui dire bah « Tiens, j'envoie mon Premier ministre parce que là, c'est pour montrer qu'on ne reçoit pas en grande pompe », je trouve que ça n'a pas de sens.
Oui. Faute diplomatique, carrément
Oui, non, mais je ne sais pas, je ne vois pas le pourquoi de la chose. En plus, demain, il l'emmène dans son lit d'aigle des Pyrénées. Je ne comprends pas la logique du tout.
Oui, voilà. Parce qu'enfin, quand même, au vu du programme, ça donne un peu l'impression qu'Emmanuel Macron veut envoyer un signal de relations plutôt très... très proches, les Pyrénées.
Ah oui, mais par contre, d'envoyer son Premier ministre, c'est quand même très froid.
Oui.
Ouais, et en même temps, on espère beaucoup de ce voyage, Emmanuel. Sur les sujets commerciaux et évidemment, naïvement, sur le sujet russe.
Le vrai problème sur les sujets commerciaux, c'est que on est uniquement sur du rapport de force. Or, le problème, c'est que l'Europe n'avance pas en ordre homogène.
Eh oui.
Et voilà. Et donc, c'est bien beau de vouloir effectivement obtenir un bras de fer commercial avec la Chine, mais honnêtement, ça n'est possible que si l'Europe parle d'une seule voix. Or, on voit bien que entre les pays européens, les options ne sont pas les mêmes. Et on voit que finalement...
Bah, les Allemands et les Italiens, dans une moindre mesure, font un peu cavalier seul.
Ça fait quand même
Non, mais les clauses miroirs, justement, toutes les menaces qu'oppose l'Europe au dumping chinois...
Les voitures électriques,
ce sont des réponses coordonnées, quand même.
Déversées sur l'Europe, bon...
On a lancé une procédure justement de surveillance.
Mais trop tard.
Oui, alors trop tard, non, je suis d'accord avec vous. Mais on commence quand même à se coordonner. Attendez, on rappelle quand même que Paris a été choisi comme première étape de ce voyage du président chinois en Europe. Ça affirme quand même notre position stratégique par rapport à la Chine.
Il n'allait pas aller en Serbie puisqu'il va ensuite. Il n'allait pas commencer par la Serbie.
Oui, d'accord, mais il y a d'autres capitales et villes européennes qui sont beaucoup plus sous influence chinoise, beaucoup plus proches de la Russie. J'en sais rien, Belgrade, Budapest auraient pu paraître comme
des choix. C'est vrai que Paris, Paris, c'est quand même un peu plus que Belgrade.
Et l'État, par Budapest.
Mais en même temps, je ne suis pas sûre que moi, j'attends de voir demain soir. On verra enfin à Albion, et on verra ce qui ressort de cette visite.
Non, mais il y a quand même des propos un petit... Alors, Emmanuel Macron, peut-être plus en rondeur, effectivement, plus en équilibre que Ursula von der Leyen, qui a été assez cash. En face, vous avez le président chinois qui dit qu'il n'y a pas de problème de surcapacité, donc ces questions ne se posent là.
Oui.
Voilà, qu'est-ce qu'on va chercher, finalement?
Et puis, Guillaume, Ursula von der Leyen a été cash. Je vous rappelle la manière dont le président chinois l'a reçue lors de son dernier passage en Chine. Elle n'était pas non plus reçue en grande pompe.
Et c'est pour ça qu'elle était cash, c'est pour ça qu'elle
Donc elle lui renvoie l'ascenseur.
C'est tenir front aux Chinois que d'ouvrir des enquêtes comme on le fait au niveau européen sur l'éolien, sur le solaire. Pour vous, c'est quoi? C'est des pis-aller ou ça peut déboucher sur quelque chose de véritablement?
Non, je pense que tout ça, il faut le
faire.
On
instaure quand même un rapport de force, vous ne pouvez pas dire le contraire.
Tout ça, il faut le faire, absolument. Mais après, la réalité, quand vous regardez ce qu'on vend à la Chine et ce que la Chine nous vend, où est-ce que vous voulez vraiment modifier les curseurs de façon telle que ça changerait les grands équilibres commerciaux? Est-ce que la Chine va se mettre à fabriquer des produits de luxe? Est-ce que la Chine va se mettre à fabriquer toute l'agroalimentaire haut de gamme que nous fabriquons? Est-ce que la Chine va se mettre à fabriquer du cognac? Est-ce que la Chine va se mettre à fabriquer...
Non, mais sur des cosmétiques. Pour l'instant, on vend beaucoup, L'Oréal vend beaucoup là-bas. Présents, ils sont en train de mettre une petite réglementation qui demande à L'Oréal d'expliciter ce qu'ils vont mettre dans leur crème. Une manière aussi, après, peut-être de les copier. Donc, c'est un gros problème pour L'Oréal.
C'est là où on peut parler de concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'il y a de la contrefaçon, il y a de la copie. C'est là où, effectivement, il y a de la norme, etc. Et effectivement, c'est contre tout ça qu'on peut se battre. Et là, effectivement, la réciprocité joue. C'est vrai qu'on n'est pas obligé. Enfin, sur les voitures électriques, après, moi, je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait placer le curseur pour les rendre non compétitifs
aux voitures. Eh bien, la transition est toute trouvée.
Il n'y a pas d'annonce de contrat pour l'instant dans les tuyaux, on verra.
Pas encore. Attendez, il
va arriver. Ce soir, il y a le dîner.
Ça fuite 24-48
heures. Dans l'euphorie des sommets pyrénéens.
Oui, voilà. On saura tout ça demain.
Ça va peut-être.
Exactement. Mais donc, en effet, puisque vous en parlez, hasard du calendrier, eh bien c'est le jour où le président chinois est en France que l'État signe avec les professionnels de l'automobile un nouveau contrat de filière qui fixe les objectifs pour les 4 prochaines années. Et l'objectif fixé par Emmanuel Macron, c'est de vendre 800 000 véhicules électriques en 2025.
C'est très ambitieux, mais c'est toujours l'objectif. Alors, Bruno Le Maire l'a encore rappelé ce matin à Bercy devant toute la profession. Il a dit... Peut-être parce que le président chinois était de passage, donc il fallait faire bonne figure. Il dit les Chinois.
C'est pas hasard du calendrier.
Non.
Du tout, je pense.
Je sais pas. Les Chinois sont les bienvenus, mais nous aussi, nous devons accélérer. Écoutez Bruno Le Maire ce matin à Bercy.
La préférence est donnée à des véhicules qui ont l'empreinte carbone la plus faible. Le choix n'a pas été fait en fonction de l'origine du pays du véhicule électrique. Et l'industrie automobile chinoise est la bienvenue en France. Si demain BYD souhaite ouvrir un site industriel de production en France, il est le bienvenu. Nous avons d'autres constructeurs étrangers qui ont fait ce choix dans les années passées, je pense à Toyota, et nous n'avons eu qu'à nous en féliciter.
Oui, alors l'industrie chinoise automobile est bienvenue en France. En attendant, elle nous lamine, Emmanuel. C'est votre sujet de prédilection.
On est sur des prix de vente qui aujourd'hui sont plus que compétitif par rapport effectivement au modèle européen. Et ce qui est le plus inquiétant finalement dans ce qu'on a entendu ce matin, c'est quand même que on nous dit dormez braves gens, tout va bien se passer, voilà. L'État sera là pour vous aider.
On va y arriver.
Or, on voit bien qu'il y a de moins en moins de moyens, que la prime, la fameuse prime pour acheter les véhicules électriques, bah à un moment le gouvernement a dit stop.
Le leasing social a été branché.
Et d'ailleurs immédiatement vous avez vu le nombre d'achats a baissé.
Oui, et vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne où sans prévenir, finalement le gouvernement a dit on n'a plus de sous, donc les aides c'est terminé. Donc quand l'État nous dit, quand Bruno Le Maire nous dit que il faut pas s'inquiéter, que les pouvoirs publics s'engagent à poursuivre les dispositifs de soutien à l'achat et à la location longue durée de véhicules neufs à zéro émission. Bah, franchement, vu l'état des finances publiques, comment vous voulez...
Ça veut donc dire quoi? Qu'ils vont reprendre le leasing social?
Oui, comment vous voulez
que mais ça va porter encore sur quelques dizaines de milliers de véhicules tout au plus,
comment
c'est
vous
ridicule.
Voulez que
oui, mais en même temps, Emmanuel, quelle marge de manœuvre a le gouvernement? Bah, quasiment aucune. Qu'est-ce qui peut
déjà,
faire?
On n'était pas obligé de se lancer dans cette folie de la voiture électrique.
Oui, oui, non, mais
on sait qu'on va ruiner
bien.
Notre industrie.
Mais si on regarde
et on décide.
Et surtout, c'est qu'on va avoir une déferlante de véhicules chinois. Donc c'est.
Oui, mais enfin, est-ce qu'on peut mettre plus d'argent sur la table? Non. Est-ce qu'on peut garder le cap? Oui. Et c'est bien la seule chose qu'on peut faire.
Edwige.
Oui, enfin moi ce qui me frappe quand même c'est très bien de maintenir la pression sur le véhicule électrique, on est complètement d'accord. Je dis juste que là on est face à, enfin tous les acteurs le disent, à une déferlante chinoise. On voit rien pour l'instant, mais elle va arriver. Et le gouvernement là maintenant, il se dit mais oui, on fait un contrat de filière automobile. Il fallait commencer il y a 5 ans.
Ça fait des années que la plateforme Luc Châtel qui vient, ça fait des années que Luc Châtel intervient, dit le thermique, c'est aux alentours de 50 000 emplois de mémoire en France, des emplois qui sont menacés à horizon de quelques années. Frédéric Motel qui vient nous rejoindre, comment est-ce que vous regardez ça?
Et puis on se réveille un peu tard sur la partie innovation, parce que là où les Chinois sont depuis des années en train de... Ils sont sur la voiture électrique et eux, ils sont déjà en train de travailler, enfin ils avancent sur la voiture intelligente. Nous, on en est seulement à la transition de la voiture thermique à la voiture électrique. Donc en plus, en termes d'innovation, leur voiture va être bardée d'innovation beaucoup plus que les nôtres. Alors il y en a un, Luca De Meo, qui a vite compris et qui est en train de bouger, mais parce que ça va être un élément important, non seulement pour le conducteur, mais aussi si on commence à consommer la voiture différemment. Par un service, il va falloir jouer sur la donnée, ce genre de choses. Et là, les voitures chinoises, elles vont fournir beaucoup plus de services que nous, beaucoup plus de data. Ouais. Après, petite nuance dans tout ça, c'est est-ce qu'un jour, quelqu'un se penchera un peu sur les data qui sont dans les voitures chinoises? On pourra avoir les mêmes sœurs que vous. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais
c'est
encore un des freins à l'achat, ça, pendant très longtemps.
Mais c'est là où, finalement, cette vision du gouvernement, elle est quand même assez inquiétante. Parce que dans leur logique, qui est de dire, il faut qu'on vende 800 000 voitures, on va les subventionner, etc. On voit bien, par rapport à ce que disait Frédéric, qu'il n'y a aucune évolution de leur modèle d'achat et de consommation de l'automobile. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans l'idée que l'objectif, c'est de substituer aux véhicules thermiques des véhicules électriques, mais sans s'interroger sur, finalement, la nouvelle économie de la solution qui doit émerger, plutôt que vers de cette économie un peu traditionnelle de la propriété d'une voiture qui va dormir 90% du temps, etc. Donc, on est toujours dans cette logique.
Oui, c'est vrai, mais parce que là, on parle de l'objectif...
Villes, en plus, on pourra plus rouler.
Oui, absolument, mais là, on parle de l'objectif en termes de vente, mais il y a aussi un objectif en termes de production. D'ici 2030, on est censé produire 2 millions de véhicules électriques sur le sol français. Et ça, on en produit moins déjà cette année que l'année dernière, donc c'est quand même mal parti.
Quand même un très très gros défi.
Gros défi. Ouais. Mais qui sera, à mon avis, qu'on pourra très bien relever dans 4-5 ans.
Ouais.
Non, mais si vous avez suffisamment de bornes, effectivement, ça fait partie des.
Oui, voilà, si on a des batteries, parce que les usines de batteries.
Ça, c'est la promesse du gouvernement.
Les gigafactories vont rentrer, vont produire.
Oui, mais avec quelle technologie? Dans 5 ans, les technologies de batterie auront déjà changé.
Oui, mais sauf que là, il ne faut pas se tromper. Ce qu'il y a malheureusement dans les gigafactories, alors Frédéric me corrigera si je me trompe, mais ce qu'il y a dans les gigafactories, c'est des technologies qui ne sont pas européennes.
Qui sont chinoises. Bruno Grandjean, qui
ne sont même pas les dernières technologies. Oui. Utilisent les Chinois, ils sont pas fous. Ils nous ont pas vendu leur dernier. Enfin, ils nous ont pas installé leur dernière technologie.
Pour ça, quand on dit qu'on tape sur le marché de l'occasion, sur le véhicule électrique, je m'interroge aussi.
J'attends de voir.
Monsieur Simotel, parlons d'Atos. C'est le point Atos comme tous les soirs.
Ça faisait longtemps,
Business.
Oui, voilà.
Ben oui, ça faisait longtemps. Non, donc ce matin, on apprenait que 4 offres avaient été. On l'a appris hier plutôt que 4 offres avaient été déposées pour la reprise du groupe, mais
Il y a déjà une qui a été retoquée apparemment, Frédéric.
Oui, oui. Alors il y avait quatre offres effectivement. Il y avait alors c'est celle de Bain Capital qui a été retoquée. Bain que l'on reverra peut-être revenir avec par un autre billet. Mais en tout cas là, le conseil d'administration de Atos s'est réuni hier soir, donc a retenu trois offres. La première, celle d'Equity Investment, qui est celle de Daniel Kretinsky, hein, qui est toujours bien là avec son offre. La deuxième, c'est celle de David Laini, qui est le président de OnePoint et qui est le principal actionnaire d'Atos. Alors lui, il est associé avec à Walter Butler. Et puis il y a une troisième qui sont les créanciers, les porteurs d'obligations.
Les nouvelles, celle-là, Fred.
Oui, celle-là est nouvelle. Oui, celle-là est nouvelle. Et eux, ils ont mis un petit coup de pavé dans la mare en disant, puis nous, on reprend l'ensemble. Hein, voilà. Sortie des 300-400 millions d'activités souveraines qui seront de toute façon repris par l'État autour du nucléaire, de la défense. Peut-être World Grid aussi, voilà, sortie de ces actifs-là, mais qui représentent pas plus de 500 millions. Nous, c'est l'ensemble que l'on va reprendre.
Mais et
on
quand
va
même à la condition que la dette ne soit pas totalement effacée.
Voilà, et on va s'associer à un industriel pour reprendre tout ça. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'était qu'on voit le projet industriel revient. On ne parle plus seulement d'un projet financier, mais d'un projet industriel. Mais, comme vous le dites, Audrey, il y a cette histoire de dette. Il y a quand même 4,8 milliards de dette qu'il faut négocier. On voit que Daniel Kretinsky, qui à mon avis est le plus lucide, lui dit, mais attendez, la dette, si on ne l'efface pas, c'est foutu.
C'est plus 4 milliards. Lui, il dit, c'est ce qu'il a fait sur Casino. Hein, ouais. Madame, hein. Je veux dire, c'est vous faites une grande croix sur la dette. Sinon, on n'y arrivera pas. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est la stratégie. Pour une fois, ça a été assez positif de Bercy, qui avait fait échouer le deal avec Airbus en intervenant trop. Là, et le fait de dire, on capte tout ce qui touche à la souveraineté industrielle de la France, on la met sous cloche. Ça a ouvert et ça a libéré un peu toutes les différentes offres qu'on voit aujourd'hui sur la table. Du coup, y compris les financiers, vous avez raison, les financiers qui disent finalement, c'est peut-être nous qui allons les reprendre. Peut-être, on ne sait pas, certains le disent, poussé par Jean-Pierre Mustier, l'actuel patron, qui lui est un ancien banquier. Peut-être que c'est lui qui pourrait trouver le deal. Et puis, il y a Daniel Kretinsky qui a quand même fait un coup financier, en fait. On le verra, à mon avis, après, sur le dossier Casino. Il a fait un très gros dossier financier, une très bonne affaire financière. Et là, peut-être qu'il
on verra. Fera.
Et quant à David Laini,
Daniel Kretinsky.
Lui, c'est l'actionnaire, mais il a perdu beaucoup d'argent.
Premier actionnaire.
Oui, premier actionnaire.
Ah, il a perdu beaucoup d'argent. C'est le seul à avoir mis beaucoup d'argent de sa poche.
Oui, mais il l'a perdu. Il a complètement perdu. Voilà.
Mais lui a permis d'avoir de siège au conseil d'administration.
Oui, oui. Enfin, d'une entreprise qui maintenant est devenue toute petite. Oui,
c'est sûr.
Frédéric. Oui, si Daniel Kretinsky reprend l'affaire, de toute façon, il va remettre de l'argent. Il faut voir aussi que c'est quelqu'un qui est, alors comme David Laini, sont des gens qui sont très bien entourés pour l'offre. Parce que moi, j'arrête pas de le dire, c'est un projet industriel. Hein, il y a quand même 95 000 personnes derrière, et il faut déjà penser au futur.
Il faut rassurer.
Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu dans toutes ces offres, c'est qu'on est en train de parler de l'actuel, la dette.
OnePoint est le seul repreneur justement à proposer un projet global avec le One Atos en disant on ne scinde rien du tout, contrairement à Daniel Kretinsky, on garde tout, on efface aussi une partie de la dette, 3 milliards, et on réinjecte du cash.
C'est pas là, c'est le coût de la restructuration, parce que la restructuration, le coût va être vraiment violent, ce qui arrive aujourd'hui sur les marchés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'euphorie qu'il y avait autour des ESN en sortie de Covid. C'était super, c'était un marché qui la croissance était de 6%, 5-6% par an. Là, la croissance, elle n'est plus que de 3%. En ce moment, Atos ne signe plus aucun contrat. Il y a un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'ils signent des contrats avec HPC, les supercalculateurs. Mais derrière, ils ne se signent plus. Donc, ils ne rentrent plus de contrats. Derrière, il y a un marché qui ralentit. Ouais. Et là, le coût de la restructuration, parce que beaucoup de gens commencent à parler, pas de licenciement chez Atos, mais des licenciements un peu partout chez les ESN. Et là, il y a encore un coût qui aujourd'hui, et moi je suis assez surpris parce que je ne vois aucun des repreneurs qui parle de ça. C'est là où je parle d'avenir. Hein. Oui, les projets d'avenir, tout ça, mais l'avenir la situation du marché vers laquelle on va, il y a encore un surcoût. Et je crois que là-dessus, à mon avis, il y a seulement Daniel Kretinsky qui a bien compris ce qui allait se passer.
Dossier qui se poursuit. Attends, j'espère présenter une solution à ses créanciers. Le 31 mai, c'est dans un
peu de temps. Ça va arriver vite, c'est important, 31 mai.
Oui.
Standard Poor's.
Oh là là,
c'est dossier à tous.
Allez,
on sera là.
Loin de tout ça, il nous reste une minute. Vous allez bien avoir un mot pour Bernard Pivot, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de...
Le vrai ministre de la Culture français.
9 ans. Compté. Ah, peut-être ouais. bien.
Ouais. Que dit le présentateur de la librairie de l'Écho qui a dû prendre un petit peu de Bernard Pivot
Alors, c'est très clair que des émissions comme la librairie de l'Écho ou la grande librairie n'existeraient pas sans l'œuvre de Bernard Pivot, qui a été quand même celui qui a familiarisé les Français avec la lecture. Alors après, il faut pas fantasmer non plus, il y a une mythologie apostrophe, ça a impacté considérablement la culture des Français, mais par les émissions. C'est-à-dire que si vous regardez l'impact que ces émissions avaient sur les ventes de livres, franchement, c'était pas spectaculaire. C'était pas spectaculaire.
Ah non,
c'était
non, mais ça fait découvrir des Le Clésio, ça a fait découvrir.
Et j'ai regardé, ne serait-ce que par rapport à, parce qu'il a fait forcément dans toutes ces années, il y a eu quelques émissions sur l'économie. Bah, je peux vous dire que l'émission avec Fernand Braudel sur l'histoire du capitalisme, ça avait quand même de la gueule. Que l'émission avec Raymond Aron sur le libéralisme, ça avait quand même de la gueule. Et que c'était des émissions qui étaient d'une excessivement haute tenue intellectuelle. Donc voilà, on essaye de perpétuer ça, mais c'est vrai que c'était l'époque où il y avait très peu de chaînes, c'était l'époque où effectivement c'était un événement
trois chaînes à la télé
le vendredi soir.
Okay, oui.
Et avec des moments de télé absolument et des moments de télé et de culture qui resteront dans l'histoire de la télévision bien sûr.
Non, mais juste dans les choix qu'il faisait aussi, c'était une manière de avec cette bonhomie, avec cette voix qu'on connaît tous, il arrivait à faire passer des messages, à rendre accessible. Il y avait un côté en fait très pédagogue chez Bernard Pivot, même lorsqu'il présidait l'Académie Goncourt. Là aussi, il faisait des choix qui étaient assez grand public. Donc moi, je m'en souviens, j'avais été à la dictée de Pivot à New York dans la grande salle de l'ONU. Je me souviens des gypaètes barbus.
Comment il fallait dire
les gypaètes barbus. C'était devenu un mot culte. On était tous précipités. Personne ne connaissait. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent
les gypaètes barbus. Il y avait une jubilation. Il y avait une jubilation dans son style qui était vraiment très enthousiasmante.
Et puis de la langue française aussi, parce qu'il invitait à la fois des humoristes. Je pense à Pierre Desproges, Raymond Devos. Il invitait des gens comme Georges Brassens aussi. Ouais. Et on parlait sur les textes. Enfin, on faisait de l'analyse de textes.
Ils parlaient très bien français.
Et quand on était pour certains dans les classes où on préparait les textes pour le bac et tout ça à l'époque, c'est vrai qu'on écoutait ça avec beaucoup d'attention.
Et oui, il a imposé la littérature à l'écran. Et je voulais vous partager ces derniers mots qu'il a eus auprès de Darius Rejbain lors d'un de ses derniers entretiens. Si j'emporte un dernier mot au jour de ma mort, ce sera demain. Voilà, j'ai trouvé ça très joli.
Et voilà. Pour Bernard Pivot qui nous a donc quitté. Moi, j'avais le souvenir du questionnaire de Proust qui était fabuleux.
Mais oui. Qui a été repris après dans.
Mais bien sûr.
Moi-même, je l'ai repris beaucoup, très souvent,
le questionnaire de Proust. Bien sûr.
Inimitable. Voilà, c'est terminé. On est en retard. 18h59. Merci à tous les trois. Frédéric Simotel, Emmanuel Le Chypre, Edwige. À demain.
Deux invités. Le patron de Bouygues Télécom. Ça sera un peu plus terre à terre, mais en même temps très intéressant. Et ses résultats financiers. Puis surtout, un changement de son offre commerciale totale. Et puis, alors, il était déjà ce matin, mais on fera le bilan avec lui de la visite de Xi Jinping, David Bavrez.
Oui.
Donc, qui connaît très bien la Chine et qui habite en Chine.
À demain, 18h10. S'il est 19h, nous on se retrouve dans un instant pour
Reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.